Bonjour. Bienvenue ceux qui sont arrivés. Alors, j'avais parlé hier brièvement dans l'introduction qu'on a fait de la silence et d'écouter le silence et qu'on allait rester en silence. Effectivement, il s'agit de ça. Quand on vient ici, c'est de ne pas parler, d'essayer de minimaliser les actions vocales, disons, à part quand c'est nécessaire. Mais cette notion d'écouter le silence est beaucoup plus que ça. C'est le fait de ne pas parler nous aide à prêter attention et percevoir et s'immerger dans le silence. Mais ce n'est pas que ça. Et ce matin, pendant notre meeting, on a eu une fabuleuse manifestation d'esprit collectif et individuel où, jusque-là, on a fait quoi? 3 heures de méditation, peut-être? Quand on voit ça dans la perspective d'une semaine, c'est pas beaucoup. 3 heures de méditation. Mais alors là, les esprits sont déchaînés, déjà. Déjà libérés de le carcan dans lequel on les confine d'habitude. Ça paraît contradictoire. On est là à rien faire, à ne pas parler, à ne pas faire tout un tas d'activités. Et on laisse nos esprits mais défouler, vraiment, mais dans tous les sens. Quand on est sur notre coussin, on est censé les laisser venir les pensées, les émotions, les sensations, et ne pas s'accrocher, ne pas se fixer sur l'un ou l'autre, rentrer dans un discours autour d'eux, ou suivre le TGV d'une pensée enchaînée après une autre. Et l'effet, on a vu ça ce matin pendant notre meeting, où, waouh, tout le monde a élaboré sur une chose d'une façon invraisemblable. On n'a pas fait ça hier pendant. Il n'y avait pas du tout ce même défoulement de la pensée. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était une question très simple. Est-ce qu'on ferme la porte à clé ou non? Et ça enchaînait toute une discussion sur sonner la cloche ou pas, Claudia en petite tenue, fermer ici ou non. Très, très étonnant. Hein. Mais pas étonnant du tout, parce qu'on est là, on laisse tomber tout le reste et l'esprit va dans tous les sens. Je ne sais pas si d'autres ont perçu ça comme moi, mais moi, c'était flagrant. Et je sais de quoi il s'agit. Je sais. J'ai assez d'expérience, donc je sais que c'est ça. Et ça engendre les fous rires. Les fous rires, c'est merveilleux pendant les retraites. Quand j'étais jeune pratiquante, dans le milieu d'une retraite, très longue retraite, de plusieurs semaines, un mois, je crois même, il y avait deux jeunes femmes qui, je ne sais pas pourquoi, mais elles avaient un ongoing fou rire. Hein, comment dire, un ongoing.
Récurrent
fou rire dans différentes situations. Voilà. Et à un moment, le soir, dans le zendo, qui était dans un stupa, et puis c'était l'extérieur autour, elles se sont mises à rire. Et c'était contagieux. Tout le monde avait envie de rire quand c'est des fous rires comme ça. Et puis, mon maître, Gyanar Roshi, a dit dans cette soi-disant silence de Zendo, « Vous pouvez sortir maintenant !» d'une façon très plat. Qui a fait encore plus rire, Et puis, elles sont sorties. Mais comme elles étaient juste dehors, Et la porte était ouverte, c'était l'été, la porte était ouverte. Elle se donnait un courgeois à rire et on entendait le fou rire dehors. Ce genre de choses, c'est très naturel parce qu'on se libère. Toutes nos inhibitions, toutes nos habitudes de s'enfermer, de contrôler, etc., sont libérées. On a ce cadre qui, comme tout cadre, nous libère. Je sais que la créativité est souvent libérée par les contraintes. On a un tableau, une certaine taille de tableau, on a un certain nombre de lignes, on a un certain nombre de minutes pour créer, et ça libère énormément la créativité. Ça libère l'esprit. Et donc, c'est ça qui s'est passé ce matin. En fait. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le silence? Si on l'entend véritablement, moi, il y avait un énorme silence dans ce défoulement ce matin, en fait. Si on le voit pour ce que c'est, si par exemple, c'est le silence du tonnerre. Le silence du tonnerre, c'est si on est libéré de nos idées de ce que c'est le tonnerre, ou qu'on veut le tonnerre ou pas, ou ça nous, parfois ça peut nous surprendre et nous faire peur, mais parfois quand on n'a pas d'idée fixe, qu'on n'attend pas du tout ça, ça nous libère. Waouh ! C'est un instant de clarté, d'ouverture intense. Et il y a un silence, le silence de l'éternel dans ce coup de tonnerre. Il se trouve que le tonnerre, c'est, je crois, je ne suis pas scientifique, mais ça, c'est le résultat de deux courants électriques contraires ou quelque chose comme ça, non? Enfin, en tout cas, c'est les courants électriques qui se rencontrent, le tonnerre. Et c'est un peu ce qui se passe pour nous. C'est-à-dire que tous ces courants qui sont nous, mais qui on ne permet pas de se rencontrer, ou soit il y a une répression, soit on va l'ignorer, on ne le veut pas, donc on ne veut pas savoir. Mais là, après 3 heures de méditation, ces courants se sont mêlés et ça nous a donné cette situation ce matin. Et tout le monde s'est donné à cœur joie, qui aussi est une libération. Une manifestation d'une libération, d'une liberté. Et même la résolution qu'on a trouvée n'était pas vraiment une résolution. Plus tard dans la semaine, les résolutions seront plus claires, je pense. Plus nettes.
Je me rappelle plus ce qu'on a décidé.
Justement. Justement. Tu vois, voilà. Donc, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste observer ça. J'ai observé ça, j'ai regardé ça et je sais de quoi il s'agit. Donc je voulais revenir sur évidemment cette notion de silence, d'écouter le silence et de en quoi ça a à voir avec notre pratique, parce que comme j'ai dit, c'est je pense à cette anecdote que je raconte régulièrement, donc excusez-moi si vous avez déjà entendu ça, de la mère Teresa, qui était interviewée par un journaliste allemand. Et la mère Teresa, tout le monde sait à peu près qui c'est, bon, elle n'y est plus, mais bon, elle faisait partie de la culture générale. Parce que c'était ce que dans le zen, on l'appelait un bodhisattva, quelqu'un qui œuvrait pour le bien-être de tous et n'était pas attaché à une image de soi, disons, je sais pas. Et donc, le journaliste lui demande, elle était chrétienne, elle était une nonne catholique, quand vous priez, qu'est-ce que vous dites à Dieu ? Il partait du principe qu'elle était chrétienne, donc elle priait, et donc il y avait Dieu, et elle disait quelque chose. Et elle a dit, je ne dis rien, je l'écoute. Donc, j'écoute Dieu quand je prie. Et donc, le journaliste est un peu étonné par ça. Et donc, il dit, ah, alors qu'est-ce qu'il vous dit quand vous l'écoutez? Et elle dit, rien. Il écoute. Alors, c'est ça, cette silence éternel. Parce que pour nous, Dieu, on ne s'occupe pas d'un Dieu ou pas Dieu dans notre pratique. Il n'y a rien en dehors de ceci et cela maintenant. Il n'y a rien à l'extérieur de nous. Véritablement, il n'y a rien à l'intérieur non plus. Mais comme on est dans cette pensée dualiste, on va dire qu'il n'y a pas un Dieu ailleurs à l'extérieur. Et donc, cette silence est en nous. On est cette silence, d'une certaine façon. Comme elle, elle écoute Dieu et Dieu l'écoute et il n'y a que le silence. Il n'y a que l'écoute, disons. Il n'y a que l'écoute. C'est quoi? Il n'y a pas une œuvre d'art qui est une oreille? Quelqu'un, il y a une sculpture qui est juste une oreille? C'est un truc surréaliste, non? Personne, c'est ça?
Magritte, peut-être, je pense.
C'est ça, je crois, ouais. Oui, c'est ça. Et Giacometti avait fait un nez, juste un nez, où l'écrivain russe ukrainien qui avait fait le nez, le nouvel le nez. Oh, ça m'échappe son nom. Ouais.
Le parfum.
Quoi? Non, c'est le nez. Il y a un type qui perd son nez. Il va à la recherche dans toute Leningrad à chercher son nez. C'est un peu comme nous, on pense qu'on n'a pas de tête et on va chercher partout. On pense qu'il y a un trésor, mais c'est ailleurs, c'est pas ici. Donc, cette silence, on est cette silence et on écoute le silence. On s'écoute ici, disons. J'ai fait quelques notes parce qu'il y a des choses que je ne veux pas oublier. Non, sur le silence, c'est... Oui. Alors, dans ce sens-là, c'est pas un silence mystique, disons. C'est pas... Et ce qu'on pratique ici, il y a une... Le zen est une pratique, c'est mystique. Il y a un mystique là. Mais ce n'est pas le mystique de... la tradition indienne, disons, ou hindoue, où c'est très complexe, c'est très contemplatif, c'est très élaboré. Le zen, le mysticisme, c'est pas ça. C'est très pragmatique, c'est très simple. C'est tellement simple et pragmatique qu'on ne peut même pas le voir. C'est même pas ailleurs, c'est tellement pas ailleurs, c'est juste ici, et c'est tellement juste ici que dès qu'on dit « Ah, c'est ça », ce n'est pas ça. Donc, ça nous échappe, c'est sa nature, et c'est notre nature aussi, disons. La nature de toute chose, c'est impermanent, mais pas impermanent dans un sens... qu'il faut compliquer à expliquer, c'est impermanent dans le sens que c'est juste maintenant, ici, ce qui est. Et puis, le prochain, je regarde ailleurs et c'est d'autres choses. Et je regarde ici et c'est d'autres choses. Et je regarde de nouveau ici et c'est d'autres choses. Je repense à Giacometti parce que j'ai fait un grand travail autour de lui. Lui, il faisait des sculptures tous les jours, ou des dessins. Et il travaillait souvent la nuit. Et le lendemain matin, quand il se réveillait, il allait dans son studio, il détruisait parce que ce n'était plus pareil. Ça pouvait être le même sujet. Il avait sa femme, souvent, qui était sa modèle, ou son frère. Il faisait un dessin, et puis le lendemain, il revenait, même position, et ce n'était plus pareil. visage qui regardait était plus pareil. Les choses telles qu'elles sont n'étaient plus pareilles. Et donc, il détruisait. Heureusement qu'il avait son frère qui, de temps en temps, disait « Non, Alberto, il faut arrêter. Il faut garder ça. » Et donc, il le prenait. Et Giacometti disait « Ok, bon, bah, ok. » Et puis, il recommençait. Il faisait la même chose. Bah, je comprends. Parce que c'est toujours différent. Tout est nouveau à chaque instant. Nouvelle à chaque instant. Mais quelle bonne nouvelle! Les choses horribles qu'on pense sont là pour toujours ne le sont pas. Même les horreurs politiques et sociales et économiques qui nous entourent et qui nous empoisonnent la vie et l'esprit, c'est impermanent. Ceci aussi va finir. Ceci aussi va être autre chose. Je sais, c'est difficile de penser ça, mais c'est ça. Les choses qu'on adore, qu'on aime, qu'on veut garder pour toujours, non, ça ne va pas durer. Les choses qu'on déteste, qui nous font tellement de mal, on pense que ça, ça va rester, mais ça ne va pas rester non plus. On ne sait pas ce que ça va devenir. Enfin, ça ne veut pas devenir quelque chose. Ça va juste être autre. Et on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça, c'est cette, si on peut goûter à ça, bon, on fait notre méditation, on appelle ça la méditation, mais c'est pas vraiment la méditation, en s'asseoir, parce que méditer implique avoir un objet sur lequel on se concentre, ou, mais si on fait ça, on reste dans la dualité, et en fait, on est l'objet. Dès qu'on dit qu'il y a quelque chose d'autre, ben, on s'éloigne de ce qui est. Donc, on fait ça. On prend cette position. On reste une demi-heure. On a nos techniques parce que c'est très, ça aide. On peut compter la respiration. On peut juste laisser passer, observer les pensées, les sensations, un corps, je ne sais pas. Donc, chacun a ses méthodes qui nous aident. Comme toute cette structure sous toute cette cadre, ça nous aide. En fait, ça nous aide à juste être ici, maintenant. À juste être présent à ce qui est et d'entendre les sons du monde, le silence du monde. C'est aussi simple que ça. Bien que c'est difficile, parce qu'on est tellement conditionné, habitué à faire d'autres choses. On est conditionné à obtenir quelque chose, arriver quelque part, amasser des choses, posséder, juger, prendre position, s'agrandir et abaisser les autres. Parce que si les autres sont plus grands que moi, ben moi je suis nulle. Et donc, il faut les abaisser pour que je sois bien, importante. Et on voit ça autour de nous. Surtout, curieusement, c'est nos dirigeants qui manifestent ça. Ce qui est désolant, parce que dans une position d'autorité, vraiment agir d'une façon juste, il ne faut pas être attaché à une image de soi. Pour agir pour le bien-être des autres, il faut les voir. Il faut voir les autres. Et malheureusement, nos dirigeants, la plupart ne voient pas ça. Mais ça peut nous soulager de dire, ah, ok, c'est cette énormité qu'on voit à la télévision tout le temps, c'est une manifestation de ce qu'on appelle les trois poisons. L'ignorance dans le sens de ne pas voir l'unité, l'avarice de vouloir posséder, d'accumuler, plutôt que d'être généreux et partager, et la colère ou la violence, la, la haine plutôt que l'amour, la compassion. On voit ça. Et on sait de quoi, d'où ça vient. Ça ne va pas régler le problème. Mais ça peut nous aider à voir d'où ça vient, parce qu'on voit d'où ça vient en nous. C'est là où ça commence. On regarde en nous et on voit l'origine de ça. C'est, ok, j'ai une idée de qui je suis et je veux maintenir cette idée. Et donc, je dois faire toute ma vie être construite autour de maintenir cette idée de qui je suis. On n'est pas du tout dans le silence là. On est dans beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit pour rien en fait. Shakespeare, il savait. Tout ce bruit, pourquoi? Pour soutenir, nourrir cette. Cette illusion, enfin, parce qu'il n'y a rien ici, si on regarde vraiment. Il n'y a rien dans le sens que on n'est pas qui on pense qu'on est, disons ça. Je reviens à cette expérience ce matin, c'était que j'avais donné l'exemple d'hier avant. Plutôt quand on faisait la cuisine ensemble, on partageait les opinions, les idées. C'était une autre façon de que l'esprit s'exprimait. Mais ce n'avait absolument pas ce côté débridé de ce matin. Parce qu'il y avait 3 heures de méditation entre. Il y avait une nuit de sommeil et il y avait 3 heures de méditation. C'était pas le même. Le déchaînement ce matin n'était pas du tout. Ah oui, il faut mettre les citrons dans le compost. Ah non, il faut pas. Il faut les couper en petits morceaux. Ah, mais ça prend des années, etc., etc. Les discussions qu'on avait. C'était bienveillant, nos discussions hier soir. Mais ça n'était pas déchaîné comme ce matin. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est ça qui est intéressant. C'est s'observer et dire, tiens, qu'est-ce que ça dit? Pas d'un sens de juger, pas juste de s'émerveiller de ça, de la différence entre la discussion hier soir et la discussion ce matin. Souvent, on peut dire, ok, bon, c'est différent au Portugal qu'en France, c'est différent quand on le fait en français qu'en anglais. Oui, tout ça joue aussi. Tout ça joue. Il y a des karmas de groupe. Il y a une façon française de discuter et être qui n'est pas la même chose que les Portugais, ou les Américains, ou les Anglais. Mais ça, où les femmes sont différentes que les hommes. Oui, mais tous, c'est juste des manifestations de l'esprit qui se déroulent. Et là, ce matin, c'était plus débridé qu'hier, disons. Alors, donc, si on. J'avais noté il y a quelques jours les trucs de Diti Suzuki qui a écrit ça en 1914. Donc là, on est à. Il y a longtemps, hein. C'est au début d'un autre siècle qui s'avérait être assez pourri et qui. Notre siècle aujourd'hui se promet d'être pourri aussi, mais. Mais peut-être pas. Enfin, peut-être que c'était pas pourri. C'est un jugement que c'était pourri. Il y a des choses merveilleuses dans le XXe siècle. Et Diti Suzuki fait partie de ça. Et donc, lui, il part de cet esprit zen, qu'on peut qualifier de mystique. Et donc, il dit, cet esprit est... Et là, on ne parle pas de Shunryu Suzuki, qui était un maître zen. Deite Suzuki était un intellectuel, mais qui était aussi un moine zen. Donc lui, il parle de quelque chose qui est calme, tranquille, silencieux, imperturbable, et dans cette quiétude et silence, il ne faut pas entendre inactivité ou comment dire idle, qui
paresse.
Oui.
Oisif.
De ne, oui, oisif, peut-être oisif. Ne pas bouger, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas ça. C'est pas un désert, cette silence ou cette pratique. C'est pas un désert. Souvent, on dit que c'est très austère, le zen. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas. C'est le... Lui, il appelle ça l'abysse ou l'abîme éternel dans lequel toutes les contrastes et les contradictions sont enterrées, où il n'y a plus de contrastes et contradictions. Et donc, c'est débridé. Il n'y a plus de limites, disons. Ou c'est comme récemment, parce que David Lynch est mort, je parle beaucoup de lui, et j'avais fait référence récemment à cette... Il y a une vidéo sur YouTube où il explique la méditation transcendantale, parce qu'il faisait la méditation transcendantale. Et un quart d'heure, mais merveilleux, et pour illustrer son pour donner, parce qu'il est dans l'image, dans le vu, il faisait un dessin en même temps. Et donc le dessin était très illuminant, parce que c'était, il y avait deux colonnes, on parle de chart. Il y a deux colonnes. Un, c'était la matière, et l'autre, c'était l'esprit. C'était en anglais, matter and mind. Et donc, matière, c'était things, les choses, et l'esprit, le mind, c'était les émotions, les pensées, les opinions, tout ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne d'habitude, dans notre monde habituel. Pour lui, dans son méditation transcendantale, et pour nous, je viens à commencer à se parler de la même chose que nous, il y a, donc en bas de ces deux colonnes, il y avait un espace qui était la même largeur que les deux colonnes, mais il n'y avait pas de division entre eux. Et là, c'est là ce qu'il appelle le champ unifié, the unified field. C'est son dada, the unified field. C'est ce que Suzuki dit, de cet abîme éternel où toutes les contradictions, toutes les contrastes, toutes les dualités, ils n'y sont pas. Il n'y a pas cette barrière entre les deux. Il n'y a pas de barrière. Et si on plonge dans notre méditation, lui, il dit que, parce que j'imagine, je ne connais pas la méditation transcendantale, mais il parle de transcender cette dualité, disons. Mais curieusement, c'est vu comme un plongeon. Donc, on plonge dans ce champ unifié. Pour nous, on dirait que parfois, j'ai vu des dessins de mon maître, qui faisaient un triangle où il y avait les deux dualités, donc forme, non-forme, absolu, relatif, toutes les dualités sur la base, et puis la partie transcendante. Qu'il appelait l'apex, où on transcendait ces dualités. Le problème avec tous ces dessins, hein, c'est qu'on peut croire que c'est autre chose que les deux dualités. Ce n'est pas. Ils sont un, tout ça c'est un. Donc quand je dis tu es le silence, il n'y a pas toi et le silence. Ou tu es le petit tabouret. Évidemment, la manifestation dans le monde relatif, c'est ce corps de femme et ce corps de tabouret. Mais on est un. On n'est pas deux, disons. Et si, bon, pour David Lynch, il parlait de... Merci Claudia qui m'a prêté un livre sur ça, où lui, il voit ça comme... Il plonge dans ce champ unifié pour attraper les poissons. Les poissons, pour lui, c'est ce qui va lui donner un film, une idée de film, une bribe de dialogue, un personnage, une image. Ça nourrit sa créativité. Et il dit, c'est pas uniquement pour les artistes, c'est pour nous tous les artistes de notre vie. C'est qu'on pêche notre créativité, notre véritable vie dans ce champ unifié. C'est pareil pour nous dans notre pratique. C'est une pratique de libération. Sur le dos de ces rakusu, c'est marqué vaste et le quoi?
Robe.
Oui, la robe de libération. Disons que ça, c'est la robe. Mais c'est un champ. C'est un champ de bienfaits. Et c'est vaste. C'est une pratique de libération. On cherche, on rencontre la liberté absolue dans ce monde qui nous pèse, qui nous contraint, qui nous oppresse, qui nous pose problème tout le temps. On est libre. On découvre qu'on est libre dans cette pratique. Et c'est radical. Je sais que je répète ça tout le temps, mais c'est très, très radical et subversif, cette pratique. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit tout le temps. On nous dit qu'on ne peut pas avoir... bon, par exemple, j'ai l'enfant de ma sœur qui est transgenre. Et juste avant, elle est née fille, maintenant c'est homme, changé de nom, officiellement le nom est changé. Et pour ça, il a fallu un nouvel passeport. Malheur, il avait déposé la demande de passeport quelques semaines avant l'élection américaine. Pensant que, oui, il y avait des menaces, mais ça n'allait pas passer si vite que ça, etc. Et donc, sur ce nouvel passeport, il a demandé d'avoir un M plutôt qu'un F. Ou même, je me demande si ce n'était pas un X plutôt qu'un M, parce qu'on avait le droit d'avoir un X. Si on ne s'identifie pas mâle ou femelle. Et donc, après l'élection et tout ça, et ça tardait. Miracle, le passeport est venu la semaine dernière, avec le nom, plutôt que Lily, c'est Louis, mais avec un F. Donc, on voit... C'est déjà miraculeux que le passeport est venu avec le changement de nom. Non. Donc, toutes ces choses auxquelles on est confronté, mais d'une petitesse, mais aussi énorme, hein, on a dans cette pratique, on trouve une liberté. Ok. Moi, je sais qui je suis. Il peut m'appeler ce qu'il veut, mais je sais qui je suis. Ça a des conséquences dans la vie relative, la vie de tous les jours. J'ai vu qu'il y avait une actrice récemment qui... quelqu'un d'autre a vu ça, une actrice américaine qui est transgenre et qui a perdu son passeport, sur lequel il y avait un F, parce que c'était un homme qui est transgenre femme, et il y avait un F sur son passeport, elle l'a perdu. Malheur, il fallait demander un nouvel passeport, et c'est revenu avec un M, bien que le passeport précédent avait un F, et que c'est une actrice super connue comme femme, actrice. Je ne le connais pas, c'est la télé américaine, je ne le connais pas. Donc, les absurdités, mais on est libre par rapport à ça. Dans notre être, disons. Ça a des conséquences dans le monde, de tous les jours. David Lynch avait aussi dit, et ça me réconforte beaucoup, et il a dit, mais c'est un moment merveilleux d'être en vie. Difficile à dire, parce qu'on a l'impression que c'est pourri. Hein. Un moment merveilleux d'être en vie, il est mort au milieu de ce merveilleux moment, hein, mais si on aime le théâtre de l'absurde, ça me réconforte, en fait. J'ai dit oui, c'est tellement absurde, ça n'enlève pas la gravité, ça n'enlève pas le fait de militer, de manifester pour ce qui, pour l'égalité, pour, enfin tout ce qu'on on tient comme nos valeurs, disons. Et dans notre pratique, c'est on prend les vœux de ne pas tuer, de ne pas discriminer, de ne pas dire les choses mauvaises sur les autres, de ne pas, en gros, de vivre d'une façon illuminée dans l'unité, de voir l'unité du monde et de cultiver les activités, les actes qui vont dans le sens du bien-être, harmonie, plutôt que dans le sens de faire du mal et le discord, des voix discordantes, disons. Alors, ce n'est pas toujours clair quelle action est appropriée, comme on sait. Est-ce que c'est approprié de faire partir d'une manifestation contre la peine de mort ? Est-ce que c'est approprié de manifester contre, je ne sais pas, pour le végétarisme ? Ouais. Bon, c'est des questions qu'on peut se poser. Et il n'y a pas une réponse fixe. Tout est impermanent. Ça dépend. Ça dépend de la situation, les personnes, le moment, notre propre réalisation de ce qui est l'unité de la vie. Et l'unité de la vie, voire l'unité, n'exclut pas le discord, n'exclut pas les différences d'opinion, de position. Il n'exclut pas ça, il inclut ça. Tandis que si on bascule dans le monde uniquement de dualité, on est dans le monde d'exclusion. On ne peut pas inclure quelqu'un qui a une opinion qui n'est pas la mienne. On ne peut pas inclure une position qui n'est pas la mienne. Tandis que si on voit l'unité de toutes choses, on peut inclure ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que je veux aller dans cette direction. Mais c'est ici maintenant. Et si on voit l'unité, on peut voir les racines. C'est comme si je vois l'unité de l'esprit. Et donc je vois ce qui était les racines de ce défoulement ce matin. Je vois ce qui se passe. Si je prête attention. Parce qu'on dit aussi, qu'est-ce que c'était ? J'ai vu ça aussi récemment. C'est ça aussi, c'était Suzuki qui disait le zen, c'est révéler dans les choses les plus inintéressantes et plus banales, dans la vie le plus banale et inintéressante de quelqu'un qui vit au milieu de ce monde. Et qui a l'esprit qui voit ça. C'est vraiment des choses de plus banales, mais on le voit, on le sait, on le sent, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est sa nature véritable, on sait de quoi ça parle. C'est pas qu'on est en train de réfléchir à ça, mais c'est évident, disons. Cette façon-là, le zen, c'est un peu ennuyeux, disons. Ça n'a pas toutes les couleurs et toutes les élaborations de le mysticisme indien. Par contre, ça a la même profondeur et ça nous ouvre l'espace infini, disons l'espace éternel et le temps infini. Parce que c'est juste ici maintenant. Il n'y a rien d'autre. Donc on ne rentre pas dans « Ah, ça ne va pas durer. Ah, il nous reste X temps. » Bien sûr, on a ce cadre qui nous dit on a X temps. Mais c'est pour qu'on puisse expérimenter où il n'y a pas de X temps. Il y a juste maintenant. Juste ici. Juste ça. Juste j'ai soif, donc. C'est tout. C'est l'ultime. Et il y a tout un parcours pour pouvoir faire ça, pour pouvoir dire ça. Tout un parcours à faire, à cheminer, pour juste voir que le trésor, c'est ici. Que ce n'est pas là-bas. Et toutes les traditions dites spirituelles nous donnent un plan pour trouver le trésor. Ils ont tous un différent parcours à suivre, mais ils amènent tous ici. Tous. Évidemment, c'est détourné, ça devient dogmatique, il y a des doctrines, il y a des fondamentalistes, et donc des matérialistes, des utilitariens, dans toutes les traditions, et donc c'est un peu détourné. Et on perd de vue de ce trésor qui est juste ici. Maintenant, dans cet instant-là, là où tu es. Donc, au début d'une semaine comme ça, on a tous nos raisons pour pourquoi on est venu. Et je sais qu'il y a, je me souviens pas qui c'était, mais a dit laisser ses raisons à la porte avec des chaussures. Peut-être c'était Bernie Glassman, je ne sais pas. Toutes les raisons pourquoi vous êtes venu, ce que vous voulez obtenir, savoir, faire, on les laisse à la porte, avec des chaussures. Vous les mettez tranquillement dans les chaussures. Toutes ces choses vont être là, hein. Ça ne va pas disparaître. Les raisons pour lesquelles vous êtes venu, les pensées que vous avez, les désirs, et tout ça, ça va rester avec des chaussures, et quand vous sortez, vous pouvez les remettre. Mais on a plus de... Ici, c'est le lieu où on tout est déposé, et on est juste là pour. Juste. Ici. C'est tout. Ce n'est pas évident. Et c'est plus difficile au début de la semaine que quand on avance dans la semaine. Et pour ceux qui viennent juste pour la journée ou juste pour une période, c'est plus facile à la fin de cette période qu'au début. Tout est contenu dans l'espace-temps qu'on le donne. Donc, ou si on vient tous les jours juste un peu, ce sera plus facile à la fin de cette tous les jours. Plus facile dans le sens que on s'habitue à d'autres choses. On se familiarise avec d'autres choses. On se familiarise avec déposer ça avec des chaussures et juste à temps. Le cadre fait que notre attention est pointée vers ça. On mange d'une certaine façon. C'était intéressant aussi, la chant ce matin, n'est-ce pas? Ça m'étonne toujours que Claudia ne connaît pas cette chanson, mais je me souviens, on a déjà parlé de ça et je sais pourquoi elle ne connaît pas. Mais... Et donc, on allait chanter. Et tout le monde était dans tous les sens avec ça aussi. C'était intéressant. Même la notion de est-ce que ça va haut, comment décrire, ça va haut, ça le place. On faisait des dessins avec nos mains pour indiquer. Mais comment, est-ce qu'il faut harmoniser ou non, très intéressant comme interaction. Et plus tard, quand on avance, c'est comme j'ai dit hier soir, ces chansons ensemble, c'est pour vraiment goûter, avoir un aperçu de l'unité, de l'impersonnel. Donc, ce n'est pas ma voix. On entendait hier soir aussi, quand on faisait des quatre vœux, on est censé avoir un inno qui impose. Comme ça, les autres ne vont pas ils sont un peu brimés, si on puisse dire. Lisa n'avait pas l'habitude de le faire, donc elle ne s'imposait pas sa voix comme inno le fait d'habitude. Et on entendait les voix, mais dans toutes les... plus vite ou moins vite, plus fort ou pas moins fort, pas le même rythme, etc. Ça va changer quand on avance. Et même si l'inno impose sa voix, c'est pas donné que ça va faire comme ça. Mais c'est une occasion de juste se mêler au courant. Donc, regardez cette magnifique petite rivière derrière la maison de Marjolaine et puis à Pont-de-Barré. Et ça coule sans cesse, pas de problème. Bon, sauf en été, j'ai compris, à Pont-de-Barré, ça ne coule pas. Mais ça coulait là. Et on a cette image de s'il y a une branche qui tombe dans la rivière, ça va être un peu problématique et ça va faire une petite piscine ici où ça tourne autour et puis ça va aller autour et où il y a des feuilles qui vont s'accrocher à la branche qui est là et ça ne va pas couler de la même façon. C'est comme ça avec notre collectif, quand il y a une voix qui ne fait pas avec le flow, on l'entend. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas un problème ou un jugement de ça. De cette voix était bien et les autres étaient mauvais. Ce n'est pas ça. C'est observer ça et se servir de ces occasions collectives qu'on a pour mettre à côté cette voix qu'on veut imposer, sauf le inno qui est censé s'imposer. Mais on met ça à côté. On laisse ça à la porte. Et je vous assure que si on fait vraiment ça, alors là, on expérimente cet silence de l'éternel, de cet espace sans limite, de cette véritable nature de toute chose. Je vous assure, si vous le faites vraiment, c'est ça qui se passe. Ou on peut observer quelqu'un. Une fois, quand j'étais en Pologne, j'étais un peu comme la situation de Miguel, sauf que lui, il comprend plus de français que je comprends de polonais. Il y avait, je ne sais pas, 100 personnes dans cette retraite, cette session. Tous les chants étaient en polonais. Alors là, rien. Je connaissais les cérémonies, je connaissais les quatre vœux, etc., mais en polonais, non. Et là, c'était aussi une époque où il y avait trois cérémonie par jour. Il y avait le matin avant le petit déjeuner, à midi devant le déjeuner et le soir avant le dîner. Et à midi, on chantait le sutra du cœur. C'était ça la cérémonie. Et il y avait une femme qui faisait le kugyo, qui est c'est un peu comme le tambour. Et elle était juste en face de moi. Et elle était... Mais c'était d'une beauté, j'ai presque larmes aux yeux. Elle était tellement ça, et elle se donnait tellement entièrement à ça, en chantant, en faisant des trucs, des yeux fermés, mais vraiment à fond. Moi, c'était un moment de grâce. J'ai vraiment eu, j'ai rentré dans cet silence éternel dans cet instant. Juste en l'observant, mais je suis devenue un avec elle. Ça a aidé que je ne comprenais rien de ce qui était dit, que j'étais dans une situation complètement étrangère. Je ne connaissais pas cette femme ou ces gens, la plupart. Ça aide. Ça aide de ne pas avoir nos repères. C'est pour ça qu'on dit, on laisse ça tout à la porte. On laisse ça avec des chaussures, les repères, parce que on est plongé dans cet champ unifié, là, Parce qu'on n'a plus nos divisions, les suggestions, les idées, ce mot veut dire ceci ou cela. Évidemment, je connaissais ce chant, ce sutra, mais je ne connaissais absolument pas où ils étaient, ce qui était dit, etc. Et cette femme non plus, bien qu'elle était polonaise. Mais elle se donnait. Donc, si on se donne entièrement à ce qu'on fait, c'est comme je disais l'autre soir, le jeudi soir, quand on parlait de « no faith », Non, great faith, great doubt, and great determination. Cette grande doute, c'est pas que oh, je sais pas, je comprends pas. Mais j'étais plongée dans le doute de, comme je comprenais rien de ce qui était raconté, je ne savais plus rien. Et j'étais libre, liberté absolue dans cet instant-là. Donc vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être à chaque instant si on s'y met entièrement. Si on se met entièrement dans le chant, dans l'orioki qu'on fait, effectivement, c'est compliqué parce qu'on vient de l'apprendre, on ne sait pas quoi faire, ou on n'a pas fait depuis 6 mois, donc on ne sait pas quoi faire, ou on le fait depuis 30 ans et puis on est en train de penser à l'autre chose. Ah oui, effectivement, il faut faire ça. Mais si on est vraiment là, c'est autre chose. On devient vraiment qui on est véritablement. Enfin, c'est pas qu'on devient ça, on voit qui on est véritablement et on voit les autres qui y sont véritablement et on voit toutes choses véritablement telles qu'elles sont. Je suis soucieuse du temps. Okay. Combien de temps hein?
1h10.
Ok. Bah, peut-être j'ouvre et je vous laisse poser des questions ou partager s'il y a des choses qui sont venues avec ça ou participer, disons, dans ce silence de parole qu'on partage. Tout le monde veut tellement goûter le silence que... Et pourquoi pas? C'est pas, c'est juste de l'observation.
Le silence du radiateur.
Quoi?
Le silence du radiateur.
Bah, c'est ça, ouais. C'est... Et pendant qu'on parlait, on n'entendait pas. Enfin, moi, j'entendais pas. Nous avons un comment qui est comment arrêter le son du clocher au lointain, de cloche qui sonne au lointain. Quoi?
Non. Maintenant que je sais que c'est un radiateur que j'entends, je vais entendre différemment.
Désolée.
Parce que.
Non, c'est marrant. Le son est toujours le même, mais maintenant je vais l'appeler le son du radiateur, donc je vais le vivre, ça va être différent pour moi, parce qu'avant c'était juste un son.
Et puis qu'est-ce que ça fait quand tu lui donnes un nom ou une identité?
Il y a un concept, quelque chose, une idée qui va.
Ah oui, c'est vrai, c'est un concept qui... Ouais. Ouais. Et puis, avec ces concepts, on vit identifier des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas.
C'est ça. J'avais pensé qu'il pourrait arrêter les radiateurs.
Je vais m'en occuper.
Voilà. Il y aura d'autres choses. C'est ça, mais...
Sur la discussion de ce matin, ça m'a fait penser. Je fais partie des gens qui étaient en fou rire rapidement. Et ça m'a fait. J'avais l'impression d'entendre qu'on peut être assis sur notre coussin et qu'on est assailli de pensées. Le monkey mind qui part dans tous les sens. Et c'était ça avec tout le monde. Mm-hmm. C'était tellement. Bah, du coup, ça fait beaucoup rire, mais. C'était tellement vivant et voilà. Et je me disais, et après j'ai eu un sentiment d'énervement. Ah, mais on perd du temps. Je voyais le temps passer et je disais, ah, mais il faut se décider, il faut prendre une décision là sur la porte. Donc j'ai vu ça aussi, le jugement. Et du coup, si cette discussion avait eu lieu en fin de semaine, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de discussion.
Peut-être qu'il n'y aurait pas
de... Pas eu de discussion, une fois que on était tous posés. Peut-être qu'on s'aurait juste dit, on ferme la porte, ou je ne sais pas, ou il n'y aurait pas eu...
Peut-être, oui, on ne sait pas.
Mais c'était marrant de voir le... En tout cas, à un moment, le jugement montait et dire... Enfin, le jugement, c'était pas un jugement, mais c'est... We're going nowhere. De sentir ça, de voir typiquement... quand on fait ça tout seul, avec nous-mêmes.
Oui, et donc
et là,
ça...
on était 10 voix à le faire.
Quoi?
On était 10 voix à le faire, ou 12, je sais pas.
Et donc, cette voix qui revient après laisser défouler un peu, il y a l'ancienne voix qui revient et dit oh, ça suffit. Enfin, je ne sais pas exactement ça, non, mais non. C'est. Ok. On arrête ça maintenant. C'est juste une autre voix.
Je trouvais ça intéressant aussi, justement, dans le sens où. On saisit, enfin je veux dire, on est là, on a décidé de s'installer dans ce cadre, etc. Mais la première occasion où le cadre n'est pas parfaitement réglé, etc., là on s'engouffre tous dans la brèche, mais le premier hein, qui va, je savais très bien, quand j'ai eu les mots petites tenues qui sont apparus dans mon cerveau, je me suis dit, est-ce que je vais le dire ou pas, et ça a avancé, et évidemment je le dis, je savais que ça avait déjà commencé, je savais que je continuais un truc engagé, quoi. Mais enfin, en tout cas c'est intéressant, enfin, met en lumière l'intérêt et la vocation du cadre, je trouve, c'est-à-dire que comme on n'a pas les gens qui sont censés le faire, peu importe, on n'a pas dit alors pendant la réunion de travail on essaye de faire comme si, de limiter ce qu'on dit, on intervient, on laisse les gens, quand il y a un sujet par exemple. Je sais que moi, dans les réunions de travail, quand il y a un sujet où je me rends compte que ça sert à rien qu'on ait la discussion là, à table, avec tout le monde, mais qu'il suffit que je parle à la personne en direct après, j'essaie de faire ça. Mais c'est parce que moi, avec la pratique, je ne sais quoi, j'ai le réflexe de ça. Mais comme on ne le précise pas pour tout le monde, bah du coup, ça ouvre plein d'espaces, de possibilités. Comme d'ailleurs quand on est assis sur notre coussin. Oui, je suis censé essayer d'arrêter mes pensées. Enfin, pas d'arrêter mes pensées, pardon, qu'est-ce que je dis? Bon courage, du coup, avec un programme comme ça.
Vaste programme.
Voilà, c'est ça. Mais je sais ce que je suis là, parce que mon intention, quoi, en venant là, en tout cas. Et pourtant, toutes les quelques secondes, il y a quelque chose, quoi. Ouais, on n'est pas rendu, quoi. Vaste programme.
C'est ça. Oui, et cette notion, comme tu dis, c'est un peu comme le couvercle sur le casserole qui est fermé et puis on l'ouvre. C'est ça. Et donc, c'est ça qui s'est passé aussi ce matin. Ce qui est formidable, enfin, c'est merveilleux d'observer ça.
Du coup, je continue sur la lancée. C'est juste que moi, après, quand j'ai vu l'heure à laquelle on a fini la réunion et le temps qu'il nous restait pour préparer le repas, j'avoue que je me suis dit, ah non, mais pourquoi on s'est laissé embarquer là-dedans ? J'ai regretté cette discussion futile en me disant, mais là, on va le payer cher. Je me suis dit ça. Et quelque part, je l'ai payé cher. Ouais, voilà. J'ai un peu...
Oui, mais c'est important de voir ça aussi. Qu'est-ce qu'on veut ? Mais c'est important. C'était l'enseignement précieux, tout ça, d'une certaine façon. Hein. Pour tous, je savais aussi que c'était... Donc c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, les temps s'écoulent sans cesse. Parce que je savais que pour la cuisine, c'était problématique. En même temps, c'est précieux comme enseignement.
Moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'en effet, il y avait cet échange. Et puis du coup, le temps qui s'écoule, du coup, on est en retard. Du coup, il y avait on était un peu pressé. Et du coup, à la fin, faux geste, ça m'a brûlé avec de l'eau bouillante. Du coup, voilà, il y a tout un enchaînement qui se fait. De voir les choses, arrivent pas comme ça. Les choses, là, c'est cause-effet.
C'est ce qu'on appelle le karma. Donc, disons simplement, oui, il y a une action et puis il y a un effet. Mais ce n'est pas mystérieux, comme tu dis. C'est que, oui, c'est une chose. Mais on ne sait jamais, on ne savait pas du tout quand on était dans cette discussion que ça allait amener à Marjolaine Brûlé. On ne savait absolument pas. Et on ne savait absolument pas. Moi, je ne savais pas du tout que j'allais parler de ça dans le dermatologue. Enfin, et puis, quels effets, quelles conséquences ça va avoir sur tout le monde, dans sa vie, je ne sais pas. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on essaie de cultiver cette attention et cet éveil vers l'unité des choses, parce qu'on a plus de chances de ne pas faire du mal si on agit de cette expérience-là. Je ne veux pas dire que le fait qu'on ait discuté ce matin, c'est la raison pour laquelle tu es brûlée.
Non.
C'est pas ça non plus. Hein. Mais on voit le chaîne de conséquences. Il y a quelque chose là.
Je ne sais pas s'il faut sortir préparé ou pas.
Ah oui. Quelle heure est-il là ?
Tout est prêt.
1h25.
1h25. Ah oui, bon, on peut arrêter là. Oui. Ok, bah, merci. Et à suivre.